Admiro, c'est un petit radiotélescope qui permet à la fois d'étudier le gaz qui s'échappe de la comète et également d'étudier la température de la surface du noyau, plus exactement de quelques centimètres sous la surface. Donc il y a eu deux types de résultats. Au niveau de la surface, cela nous a appris que la comète répondait très rapidement aux changements de température. C'est-à-dire que les régions illuminées devenaient très chaudes dès qu'elles étaient illuminées, alors que quand elles étaient dans le côté non ensoleillé, immédiatement, leur température baissait très rapidement jusqu'à des températures de l'ordre de 40 Kelvin, c'est-à-dire moins de 120 degrés Celsius. Donc ça nous dit que la surface est extrêmement poreuse, en fait. Donc ça permet à ce que la surface réponde très rapidement aux changements d'illumination.
Avec tous ces changements de température, qu'est-ce qui arrive à l'eau contenue dans la comète?
La glace d'eau, quand elle est exposée à des températures au-dessus d'une certaine valeur, qui sont typiquement des valeurs de moins 100 degrés Celsius, et ben, elle se sublime. Donc là, avec MIROS, on a pu, bien sûr, détecter la vapeur d'eau. On a pu montrer que cette vapeur d'eau, elle provenait en grande partie, majoritairement, de la région de la comète qu'on appelle le Cou, c'est-à-dire qui est située entre son petit morceau et son gros morceau. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que les propriétés de surface de ce Cou sont un peu différentes que les propriétés des autres régions de la comète. On observe que cette région est un petit peu plus bleutée, qui indique qu'elle contiendrait un peu plus de glace d'eau par rapport aux autres régions.
L'engin Virtis était chargé de mesurer quelles données?
Alors Virtis, donc c'est un instrument qui observe dans l'infrarouge. Virtis peut faire beaucoup de choses, mais un de ses objectifs, c'était donc de mesurer la température de surface, mais aussi d'analyser la composition de surface. Et Virtis, d'une part, a montré que la glace d'eau n'était pas sur la surface, en fait. Elle était très probablement légèrement en dessous, hein, peut-être à 1 cm, hein, on ne sait pas exactement sous la surface. Voilà. Et bon, un autre de ses résultats, c'est que la surface, par contre, contient de décomposés organiques, de la matière organique.
Quel type de matière organique?
On sait que les comètes, les noyaux cométaires, contiennent des glaces, la matière organique et des roches. Donc ça, on le savait. On sait que dans les poussières, il y a de la matière organique. Donc c'est ce qui veut bien dire que sur le noyau, il doit y avoir de la matière organique. Là, pour la première fois, cet instrument a pu identifier la matière organique à la surface. Alors cette matière organique, elle est difficile à caractériser. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on retrouve cette matière organique, elle n'est pas analogue à celle qu'on peut trouver dans les météorites primitives, par exemple. Ce qu'on soupçonne, c'est qu'elle contient des acides carboxyliques, des groupements qu'on retrouve par exemple dans le vinaigre ou qu'on retrouve dans les acides aminés. Donc la matière n'est pas complètement identifiée, mais elle est quand même caractérisée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette matière, on ne la retrouve pas dans les autres objets du système solaire.